When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui dans Podcasting, nous allons dans le Lot-et-Garonne. Là-bas, à Bias précisément, des centaines de harkis ont vécu à la fin de la guerre d'Algérie. Dans une interview de l'historienne girondine Katia Kemach, Far West retrace le parcours de ces harkis. L'article s'appelle « Harkis du Lot-et-Garonne, une mémoire encore vive ». C'est vous qui l'avez écrit, Sévan Osebian-Vartagnan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous collaborez régulièrement avec Far West et vous avez donc rencontré Katia Kemach. Cette historienne connaît bien le sujet des harkis puisqu'elle a réalisé sa thèse de doctorat sur les harkis du Lot-et-Garonne, c'est ça ?
Donc, Katia Kemach en fait est professeure d'histoire-géographie en Gironde et en fait elle a fait effectivement sa thèse sur les populations harkis du Lot-et-Garonne et elle en a tiré un livre qui s'appelle « Harkis un passé qui ne passe pas ».
Dans quel cadre est-ce que vous l'avez rencontré et pourquoi avoir choisi de l'interviewer ?
Alors en fait, c'était dans le cadre du Festival international du journalisme qui est organisé par Le Monde et qui se déroule chaque année à Couture-sur-Garonne, donc dans le Lot-et-Garonne. Et en fait, j'ai choisi du coup le format de l'interview parce que c'était un sujet vraiment pointu et qui nécessitait... De retranscrire directement les explications d'une experte, donc de Katia Kemach, tout en essayant de vulgariser au maximum pour rendre ce sujet plus accessible et compréhensible.
Justement, pour bien expliquer ce sujet, commençons par définir ce que sont les harkis. Dans le langage commun, on dit souvent que les harkis sont des Algériens qui ont combattu avec l'armée française pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire entre 1954 et 1962. Mais ce que vous explique Katia Kemach, c'est que derrière ce terme, il y a en fait des situations très diverses.
Oui, en fait, à l'origine, le terme de harki désigne une des cinq catégories de supplétifs. Donc les supplétifs, c'est des soldats recrutés temporairement pour renforcer les rangs de l'armée. Donc là, c'était l'armée française. Donc les harkis, à la base, c'est une des cinq catégories de supplétifs pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, ces harkis, ce sont les membres des unités qu'on appelait harka, donc c'est les unités en mouvement. Puis après, avec l'histoire, le terme est devenu générique, on a fait un peu un raccourci historique. Et c'est vrai qu'il désigne maintenant, du coup, tous les Algériens qui ont été du côté de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Donc il y avait notamment des militaires qui étaient engagés sous contrat, conscrits. Il y avait également 200 000, ce qu'on appelait des Français de souche nord-africaine ou indigène, qui ont été armés par les Français. Mais il y avait également des civils, des fonctionnaires, des élus. Donc effectivement, le terme de harki aujourd'hui regroupe toutes ces catégories de personnes.
L'Algérie obtient son indépendance en 1962, et à ce moment-là, tous les harkis ne seront pas rapatriés en France. Pourquoi ?
Alors principalement parce que les pouvoirs publics ne le voulaient pas en fait. Ils n'étaient pas prêts à les accueillir. Après, il faut bien avoir le contexte de l'époque en tête. C'est-à-dire que l'État français doit gérer l'afflux notamment d'un million de pieds noirs, le retour des appelés d'Algérie, une crise de l'institution militaire, il y a également les attentats de l'extrême droite qui ne veut pas d'une Algérie indépendante. On va dire qu'en fait, le sort des harkis passe clairement au second plan pour l'État français, qui a d'autres choses plus importantes à ses yeux, en tout cas à gérer à ce moment-là.
Pourquoi la France fait le choix à l'époque de placer ses harkis dans des camps ?
Pourquoi les camps? Alors, une des principales raisons, c'est que dans les années 60, en France, il y a une terrible crise du logement. Et en fait, les camps sont une solution rapide pour loger ces Algériens qui ont servi la France. Il faut également garder en tête qu'à l'époque, les pouvoirs publics, les dirigeants, tout le monde en fait estime, donc c'est une logique encore très coloniale, hein, mais estime que les harkis ne peuvent pas s'intégrer en fait au tissu social français de la métropole, on va dire. Donc les placer dans des camps, c'était aussi une façon de pouvoir les surveiller et en fait éviter qu'ils se mélangent à la population.
Dans le Lot-et-Garonne, il y aura donc un camp à Bias. Il y aura jusqu'à 1300 harkis là-bas, après la guerre d'Algérie. Qui étaient ces harkis envoyés dans le Lot-et-Garonne?
Alors pour Bias, c'était uniquement ce qu'on appelait les inclassables, donc les plus fragiles en fait. Pour les harkis qui pouvaient encore travailler, ils étaient eux envoyés dans les hameaux de forestage dans le sud-est ou dans les centres industriels dans le nord-est de la France. Tandis qu'à Bias, on retrouvait vraiment des infirmes, des vieillards, des personnes malades, des veuves. Donc une phrase que Katia Kemach m'a dit et qui m'a marqué, c'était Bias, c'est le bout du bout. Parce que déjà, il y a une ségrégation sociale et également géographique en fait. Parce que le camp n'était pas. Enfin, il était à 1 km du centre de Bias déjà, et dans le Lot-et-Garonne en plus, qui est un département qui est quand même assez rural encore.
Zone rurale, oui, le Lot-et-Garonne, un camp situé loin de tout. À quoi ressemble la vie dans ce camp de Bias pour les harkis?
Alors, les harkis de Bias vivaient vraiment dans des conditions très difficiles. Ils étaient logés en fait dans des préfabriqués minuscules qui étaient divisés par des cloisons très très fines. Le mobilier était très rudimentaire. Il y avait un lit de fer, un matelas, des traversins, des draps, des couvertures qui était fourni par l'armée, et juste un poste d'eau froide. Tout ce qui était après sanitaire était à l'extérieur. Donc il y avait, à son apogée du camp, en tout cas, il y avait 1300 harkis qui vivaient à Bias, sachant que la capacité maximale du camp, en fait, est de 850 personnes. Donc avec la surpopulation, en fait, il y avait des problèmes sanitaires qui étaient déjà présents dès le début, mais qui se sont aggravés avec la surpopulation. Le camp de Bias, c'est aussi un quotidien extrêmement militarisé, avec un lever de drapeau tous les jours, un portail qui s'ouvre et se ferme à horaire fixe, plus d'électricité à partir de 22h. Donc en fait, les harkis étaient vraiment infantilisés et, comme je l'ai déjà dit, vraiment surveillés. Après, il y avait quand même des choses qui étaient mises en place, notamment pour les enfants. Il y avait un terrain de foot, une école. Et puis les assistantes sociales essayaient aussi de mettre en place ce qu'ils appelaient des ateliers sociaux, culturels, et notamment des voyages, des colonies de vacances, mais vraiment contre harkis.
Vous l'avez dit, les conditions de vie sont très difficiles, et c'est ce qui explique en partie pourquoi des harkis se rebellent en 1975 dans le camp de Bias.
Oui, clairement. Il y avait vraiment en fait un ras-le-bol, notamment de la part des jeunes du camp, un malaise social qui s'est exprimé par cette révolte. Donc il y avait eu une occupation manu militari des locaux administratifs du camp, un incendie aussi dans une des salles de classe, des manifestations violentes, et également une prise d'otage de 4 travailleurs immigrés algériens. Alors ça, c'était au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, donc dans le Gard, mais en fait cette prise d'otage avait été fomentée et orchestrée par des jeunes de Bias. Et en fait ces jeunes voulaient qu'on parle de leur situation en fait, qui était clairement un tabou, un non-dit historique. Katia Kemach avait d'ailleurs dit les harkis ont trouvé leur place dans la société en contestant.
Ce qu'on comprend aussi en lisant l'interview de Katia Kemach, c'est que être harki, c'est une identité à part entière, une communauté, et que même les harkis qui n'ont pas connu l'Algérie se sentent harkis. Comment s'est construite cette identité ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, être harki, c'est vraiment devenu une caractéristique héréditaire, donc c'est-à-dire qui est transmise de génération en génération. Et Katia Kemach parle d'une communauté de destin qui partage la même histoire. Donc elle explique que c'est celle des massacres, de l'exil et aussi des camps qui sont devenus en fait un marqueur identitaire. Et c'est pourquoi même ceux qui n'ont pas connu l'Algérie française, mais qui ont grandi dans les camps, s'identifient comme harkis. C'est les harkis effectivement de deuxième, troisième génération.
Il y a toujours un des harkis dans le Lot-et-Garonne, ils ont d'ailleurs une association. Alors la première génération a du mal à parler de son histoire, mais les deuxième et troisième générations ont plus de revendications, c'est ça ?
Oui, la première génération de harkis est restée dans un mutisme total. Si je reprends les termes de Katia Kemach, elle parle même de silence protecteur, car c'était très douloureux en fait pour eux d'en parler. Et au final, tout ce qui concerne les revendications d'ordre mémoriel, d'écriture d'une histoire, les revendications de réparation par rapport aux conditions de vie dans les camps par exemple, et tout ce qui est lié à la reconnaissance de la part de l'État français dans l'abandon des harkis, tous ces combats-là, c'est vraiment la seconde et la troisième génération qui les a menés, et qui les mène toujours d'ailleurs.
Et finalement, quelle trace a laissé ce camp de Bias dans la commune ?
Alors matériellement, il reste pas grand-chose, il ne reste qu'une barre de l'ancien bâtiment des célibataires. Donc les célibataires, c'est les hommes seuls et les vieillards, donc c'était le groupe le plus fragile. Ensuite, depuis 2001, il y a une stèle qui a été érigée. Et en fait, dans les années 1980, donc sur les ruines du camp, ont été bâties deux cités HLM, donc Astor et Paloumé, où d'ailleurs vivent encore certains descendants des harkis. Et après, je voulais finir en citant Katia Kemach, qui explique, qui dit « D'un point de vue moral, psychologique, symbolique, il reste tout de Bias, tout, le traumatisme, la sensation d'enfermement, le ressenti légitime de ces enfants rejetés par leur société d'origine, bannis par l'Algérie et mis à l'écart, dénigrés par leur société d'accueil, par la France. »
Et pour en savoir plus sur le travail de Katia Kemach, vous pouvez lire son livre « Harki, un passé qui ne passe pas » aux éditions Cairn. Vous pouvez aussi lire l'article de Far West « Harki du Lot-et-Garonne, une mémoire encore vive ». C'est vous qui l'avez écrit, Sévan Osebian-Vartagnan, merci.
Merci Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Mathilde Leleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.